Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pascal Baudin. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le début de semaine a été particulièrement sanglant dans la bande de Gaza. En effet, alors que les dignitaires israéliens et américains célébraient le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, au moins 60 personnes étaient tuées par l'armée de l'État hébreu à la frontière avec Gaza. Les chancelleries ont globalement dénoncé les violences, mais elles l'ont fait en des termes relativement frileux. Alors certes, les condamnations sont là, mais les précautions sémantiques semblent de mise de la part des Occidentaux. Mais aussi, plus étonnant peut-être, des leaders arabes. Et cette frilosité révèle parfaitement le fait qu'aujourd'hui, la cause palestinienne n'apparaît plus comme une priorité diplomatique. Alors comment cette cause palestinienne est sortie des agendas diplomatiques? C'est la question qu'on va se poser tout à l'heure. On accueillera Yves Aubin de la Messusière, mais aussi Alain Dikoff. Mais d'abord, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Venezuela.
Mais dites-le s'il n'y a plus rien à manger ici! Arrêtez de vous moquer du monde! Et arrêtez aussi avec le chavisme. Vous vous tirez une balle dans le pied. Vous pouvez pas mettre une pancarte pour dire que c'est fini, qu'il n'y a plus rien. On sait rien. Ça fait des heures que j'attends là-bas, au bout du monde.
Bonjour Yann Le Gléau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancien correspondant pour RFI à Caracas et on vous reçoit pour ce documentaire dont on vient d'entendre là un extrait, Venezuela, l'instinct de survie, qui sera diffusé demain sur Arte à 18h35. Vous rentrez donc tout juste de ce pays, vous êtes resté une quinzaine de jours. On sait bien sûr que ce pays est dans une crise politique majeure avec un Nicolas Maduro qui s'accroche au pouvoir. D'ailleurs, il y aura des élections présidentielles la semaine prochaine, mais les conditions sont loin d'être réunies pour parler d'un scrutin démocratique. On y reviendra la semaine prochaine dans Culture Monde. C'est un pays que vous connaissez bien parce que vous avez été correspondant sur place, mais vous y étiez pas retourné depuis un certain nombre d'années et vous avez donc voulu voir comment depuis le pays avait changé. Vous avez essayé de faire un état des lieux de la situation économique, sociale, alimentaire, sanitaire. On va y revenir ensemble. Votre documentaire s'ouvre sur des Vénézuéliennes, des Vénézuéliens qui, seuls ou avec leur famille, traînant quelques bagages derrière eux, traversent un pont pour les conduire du côté de la Colombie voisine. C'est un exode qui est en train de vivre le pays en réalité.
Oui, c'est un exode terrible, assez grand, sur cette frontière qui est l'un des points de passage principaux entre le Venezuela et la Colombie. On n'a pas de chiffres, mais les estimations parlent d'un exode de 20 à 40 000 personnes par jour, là, avec bien sûr des allers-retours avec les frontaliers, mais avec essentiellement, en tout cas de moi ce que j'ai pu voir, des familles séparées vénézuéliennes, des gens seuls aussi, qui quittent leur pays parce que la situation devient impossible.
On va essayer de comprendre justement ce qu'est la situation parce que vous allez remonter donc le flot de ces migrants et vous vous rendez notamment à San Agustin qui est un quartier assez pauvre de l'ouest de Caracas. Vous y rencontrez notamment Barbara qui est au chômage, dont le mari travaille à la poste. Elle est en train de préparer à manger pour ses enfants qui vont filer très vite à l'école. Et ce qu'elle vous explique, c'est que en quelques mois, compte tenu de l'augmentation absolument incontrôlée des prix, les habitudes alimentaires ont été bouleversées. Racontez-nous très concrètement les difficultés de cette famille pour se nourrir, parce que c'est quelque chose, il faut bien comprendre, c'est une préoccupation de tous les instants aujourd'hui au Venezuela.
Ouais, quotidienne, il faut faire la queue pour trouver des produits alimentaires, alors ça peut être dans les supermarchés, mais comme le Venezuela s'est transformé en une sorte d'entreprise importatrice, l'État contrôle tout le processus de production. Pour trouver à manger, il faut faire la queue, je crois que la moyenne c'est 4 heures par jour. Il faut faire la queue pour chercher à manger, il faut faire la queue pour trouver des médicaments, il faut faire la queue pour retirer de l'argent liquide dans les banques.
Est-ce qu'on peut parler de famine aujourd'hui ? Il y a des chiffres que vous donnez qui sont quand même stupéfiants. D'abord, on nous dit que les 2000 calories nécessaires par jour, beaucoup de Vénézuéliens n'y ont pas accès. On nous dit que sur l'année 2017, les Vénézuéliens ont perdu en moyenne 11 kilos.
Ouais, ce sont les derniers chiffres, c'est 11 kilos par personne. Parler de famine, peut-être que le terme serait un petit peu trop fort, il me semble. Il y a des problèmes pour se nourrir, il y a des carences alimentaires, notamment chez les enfants, ce qui pose aussi des problèmes d'attention à l'école, des problèmes même cognitifs. Parler de famine, on n'est pas au Sud-Soudan non plus. La nourriture continue d'arriver, au compte-gouttes, mais elle continue d'arriver. Évidemment, pour les familles les plus pauvres, ce qui n'est pas le cas de la famille que j'ai suivie, c'est une famille qui,
en quelque sorte, est représentative.
Oui, le mari travaille, il est fonctionnaire,
et donc il a, ouais.
Il y a des revenus qui arrivent. Parler de famine, ce serait parler d'un phénomène général. Pour moi, c'est pas vraiment le cas, même si c'est très, très, très difficile.
Pour se nourrir, on achète donc des produits peu chers, subventionnés par l'État, mais pour ça, faut faire la queue pendant des heures. Ces interminables files d'attente sont surveillées par la police et par l'armée, parce qu'il faut bien comprendre, la tension est extrêmement forte. On l'entendait là, justement, dans l'extrait de ce documentaire, parce qu'on n'est jamais sûr d'obtenir quelque chose à l'arrivée.
Non, dans le cas du personnage qu'on entend parler et qui se met en colère, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de gens, s'élever parfois à 3 ou 4 heures du matin pour espérer trouver un paquet de farine de maïs, qui est vraiment un peu l'étalon alimentaire au Venezuela, et puis qui se rend compte au bout de 2, 3, 4 heures d'attente que le supermarché a choisi de fermer la grille parce qu'il n'y a plus ou parce que la police décide qu'il y a une agitation qui justifie la fermeture de la grille. Et dans ces cas-là, vous avez attendu pour rien. Donc il y a une frustration qui est énorme. Les gens ont l'impression d'aller quémander de la nourriture, alors qu'ils ont, en tout cas pour certains, les moyens de l'acheter.
Pour comprendre pourquoi précisément il n'y a rien, il faut aller voir où justement la nourriture est censée arriver. Et vous le faites, vous allez au port de la
Guaira.
Guaira, ouais. Qui est le principal port du pays. C'est là qu'arrive la nourriture, les médicaments. Vous êtes accompagné d'un douanier qui a tenu à rester anonyme. Il vous accompagne sur les quais de déchargement. Et ce que vous constatez, c'est qu'ils sont vides. Il n'y a quasiment plus rien qui rentre dans le pays.
En tout cas, quand j'y étais, il y avait très très peu de navires dans le port. Les quais de déchargement, effectivement, sont entièrement déserts. Il ne le dit pas là dans le reportage, mais on parle aussi des containers. Il y a des containers, mais ils sont vides. On a réussi à rentrer avec lui. C'est pas un douanier, c'est un courtier en douane, donc, qui est plutôt dans le privé, et qui m'explique que depuis à peu près un an, ses clients ne peuvent plus rien apporter. Par faute de devises notamment.
Et quand on sait que le Venezuela importe quasiment l'essentiel de la nourriture, l'économie est vraiment très dépendante de l'extérieur, on comprend... D'ailleurs, on peut se demander pourquoi est-ce que le pays est aussi dépendant des importations.
Il y a plusieurs raisons à cela. C'est, d'une part, c'est le modèle économique, donc la monoculture pétrolière, l'économie de rente, qui fait que, au détriment de la production, on préfère importer. Et puis, il y a aussi un secteur agricole qui s'est complètement effondré, qui est aujourd'hui très, très, très fragile. Le Venezuela, c'était avant la découverte du pétrole, une économie agro-pastorale exportatrice. Aujourd'hui, je me semble que le Venezuela fait partie des premiers importateurs au monde de lait en poudre. Alors qu'il exportait avant du lait, du café, du riz, etc. Aujourd'hui, le Venezuela importe tout.
Alors, il y a d'autres moyens de s'alimenter, parce que compte tenu de cette pénurie, il y a tout un marché parallèle, un marché noir qui s'est développé, notamment avec ces groupes qu'on appelle les collectivos, qui tiennent des petites supérettes de quartier dans lesquelles, là, précisément, les prix sont restés à peu près stables. Expliquez-nous qui sont ces collectivos et comment se fait-il que eux parviennent à vendre des choses. D'où vient la nourriture qu'on ne trouve pas, justement, dans l'aide alimentaire subventionnée par l'État?
C'est assez compliqué. Il y a plusieurs explications, il y a plusieurs versions, comme souvent au Venezuela d'ailleurs. Pour définir un collectivos, certains parlent de milices, d'autres d'organisations parallèles directement liées au gouvernement, qu'on trouve dans les quartiers de Caracas.
Il n'y a pas de doute sur les liens avec le gouvernement. Dans votre documentaire, on voit par exemple dans la supérette trois portraits. Il y a Bolivar, il y a Chavez et il y a Maduro.
C'est ça. Voilà. Dans une supérette, c'est un petit peu particulier. Oui, effectivement. Là, en l'occurrence, c'est un PDVAL, c'est une émanation de PDVSA, donc qui fait aussi dans le social maintenant, qui n'est pas uniquement dans le pétrole. Effectivement, ils contrôlent les arrivées d'aliments. Souvent, d'ailleurs, ils communiquent beaucoup autour de ça. On disait, nous, on fournit 1200 familles. Ici, tout le monde a de la nourriture. Il n'y a aucun problème. Évidemment, il y a une stratégie de communication autour aussi de ces collectivos.
Vous voulez dire propagande?
Propagande, oui.
Où est-ce qu'ils s'approvisionnent?
Alors là, c'est des livraisons qui sont tout à fait officielles. Ensuite, la nourriture est devenue vraiment est devenu l'objet d'un marché noir assez incroyable. Certains cadres de l'État ou certains grands cadres de l'armée, comme le Venezuela importe tout, contrôlent les livraisons de nourriture qui arrivent notamment par container. Alors il y a les petits trafiquants hein, de quelques paquets de riz, et puis il y a les plus gros trafiquants qui, eux, trafiquent des tonnes et des tonnes de nourriture et qui s'approprient les importations pour ensuite les revendre au marché noir, souvent deux ou trois fois le prix.
Donc ça veut dire que si l'aide alimentaire manque, c'est aussi parce qu'une partie de ce qui devrait être proposé via cette aide alimentaire a été détournée. C'est ça que ça veut dire?
Oui, il y a une forme de corruption, on peut même parler parfois d'une grande machine clientéliste.
Alors pour ceux qui n'ont pas réussi à se nourrir ni avec l'aide alimentaire, avec ces produits subventionnés par l'État, ni dans ces fameuses supérettes tenues par les collectives, il y a aussi la soupe populaire.
Tout à fait.
Et ce qui est absolument frappant, c'est que c'est pas seulement pour les plus pauvres, c'est aussi pour les classes moyennes maintenant.
Non, la classe moyenne voilà, se dirige maintenant vers ces soupes populaires. On en voit surgir un petit peu partout dans Caracas. Souvent c'est l'église, mais pas uniquement. En général, pour certaines, sont hebdomadaires, voire quotidiennes. Là, on donne un petit repas, une petite soupe. La soupe populaire qu'on a visitée, nous, ils étaient une centaine quand ils ont commencé. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 personnes qui viennent se nourrir chaque samedi et des gens qui travaillent, qui n'ont pas les moyens, malheureusement, de se nourrir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un kilo de viande au Venezuela, c'est à peu près la moitié d'un salaire minimum.
Alors voilà les difficultés pour manger. Maintenant, regardons les difficultés pour se soigner. Vous êtes rendu dans un hôpital. Lorsque, par exemple, cette jeune femme que vous avez suivie, Barbara, se rend à l'hôpital pour essayer de trouver quelques médicaments pour son fils qui est malade, puis on lui dit qu'il n'y a plus rien. Par ailleurs, le matériel ne fonctionne plus vraiment. Il n'y a plus de fourniture. C'est ce que vous dit, par exemple, cette jeune radiologue qui vous dit que très concrètement, elle ne peut plus rien faire parce qu'elle n'a pas le matériel pour exercer. Donc les hôpitaux, aujourd'hui, ne sont plus du tout en capacité de soigner les gens?
Non. Non, très clairement non. Le système de santé publique au Venezuela s'est effondré aussi avec le reste. Cette radiologue a dit qu'elle n'a même pas de film radiographique. Donc techniquement, elle ne peut pas travailler. C'est le cas aussi d'une infirmière qui nous fait visiter un bloc opératoire où il n'y a plus d'anesthésiant, il n'y a plus de compresse, il n'y a plus d'alcool. Donc matériellement, elle n'est pas en mesure de soigner correctement des patients.
Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose dans cet hôpital. Les gens attendent, mais on a l'impression que la vie s'est arrêtée.
Les couloirs sont vides puisque la population sait qu'il n'y a plus rien dans les hôpitaux, donc ils ne viennent plus.
Ça n'empêche pas la politique de s'immiscer jusque dans l'hôpital, parce que pour les personnes qui sont les plus gravement malades, je pense à des personnes qui ont par exemple des cancers, notamment des enfants, l'hôpital n'est pas en capacité de leur proposer des traitements, et lorsqu'ils essayent d'aller se faire traiter ailleurs, là aussi c'est très compliqué, parce que pour sortir son dossier de l'hôpital, il faut avoir les bonnes connexions. Ou faut payer.
Il faut payer. Alors, elle ne le dit pas comme ça. Elle le laisse entendre. Si elle veut s'adresser à une entreprise privée, à une fondation ou à un docteur étranger, elle n'est pas en mesure légalement de sortir le dossier de santé de son fils de l'hôpital. Voilà. Il y a une sorte de chape de plomb qui est imposée. C'est le cas aussi pour ce qui concerne la trithérapie dans le cas du sida.
À la fin du documentaire, cette femme que vous avez suivie, Barbara, vous confie sa déception. Elle vous dit qu'elle avait voté il y a 20 ans Chavez, mais qu'aujourd'hui le pays est beaucoup trop mal géré et que ça peut plus durer. Et ce qu'elle vous dit, c'est que la population est au bord de l'explosion. Et si ça explose, vous dit-elle, il y aura encore plus de morts que l'année dernière, vous dit-elle. Faut se souvenir que quand même l'année dernière, il y a eu des violences très importantes avec au moins 120 morts dans des affrontements avec la police. Il y aura des élections la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le catalyseur pour une nouvelle flambée de violence?
Là, je suis pas devin. L'opposition me semble quand même un petit peu résignée, divisée. Je ne sais pas si elle sera capable de mobiliser comme elle l'a fait il y a un an à partir de la fin mars 2017 et jusqu'en juillet, ce qui avait conduit ce nombre de morts assez important.
Enfin, en tout cas, l'opposition, elle ne sera pas très très présente pour ce scrutin. Il faut rappeler que la MUD, qui est la coalition de la table de l'unité démocratique, elle a choisi de ne pas présenter de candidat. Elle a choisi de boycotter le scrutin. Donc, l'opposition, elle est quand même assez réduite.
Aujourd'hui,
elle existe quand même.
Elle existe. Il y a un nouveau front qui s'appelle le Frente Amplio, qui est le front large. Donc, qui veut bien dire ce qui est
très très large.
Très, très,
il va de l'extrême gauche à la droite.
Voilà, ce qu'on peut voir aujourd'hui à Caracas, c'est de tout petits rassemblements sur les places de dizaines de personnes, mais rien à voir avec les grandes marches qu'on a pu voir l'année dernière, là sur l'autoroute centrale de Caracas, par exemple.
Mais vous pensez que Nicolas Maduro peut perdre l'élection?
Je vous dis, je suis pas devin. Ça m'étonnerait. Les Vénézuéliens, ce qu'ils m'ont dit, c'est de toute façon. Ils vont tout faire pour qu'on aille voter. Le reste, ils s'en occupent.
C'est-à-dire le reste, il s'en occupe. C'est-à-dire les manipulations, on va bourrer les urnes. C'est ce qu'il laisse entendre.
C'est ce qu'il laisse entendre.
Okay. Que peut faire la communauté internationale?
L'OEA, l'Organisation des États américains, a clairement dénoncé ce qui s'est passé au Venezuela. La France aussi, par la voix du président. Je vois mal comment la communauté internationale pourrait intervenir dans le processus électoral. Il a été dénoncé à plusieurs reprises. Je ne vois pas pour l'instant par quels moyens la communauté internationale pourrait faire changer les choses au Venezuela. Ça reste un état encore très fermé, très isolé.
On va faire réagir nos invités. Yves Aubin de la Messuzière et Alain Diekhoff sont arrivés entre-temps, je les salue. Bonjour Yves Aubin de la Messuzière. On va aborder dans quelques instants avec vous cette question des violences à Gaza et de la sortie de la cause diplomatique des agendas politiques. Je rappelle que vous êtes diplomate, ancien directeur de la section Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai d'Orsay. Que vous inspirent les propos que vous venez d'entendre sur la pénurie, sur la crise sociale, sanitaire que traverse le Venezuela? Et évidemment, on pense aussi à la bande de Gaza. Donc, je vous en prie.
Oui, effectivement, en vous écoutant, je pensais à la situation telle que la population de Gaza, donc à laquelle elle est confrontée depuis des années, c'est effectivement la pénurie. Ce sont les, en raison même du blocus, qui est d'ailleurs un double blocus, surtout d'Israël, mais aussi de l'Égypte, même si de temps en temps ils ouvrent les frontières.
Là, c'est le cas depuis le début du Ramadan. L'Égypte a annoncé qu'elle allait un petit peu assouplir.
Et ça va être évidemment au compte-gouttes. C'est aussi probablement le chômage. Alors la différence, c'est que le Venezuela donc a ses ressources pétrolières, mais extraordinaires. C'est là où je ne connais pas bien le dossier, cette incompréhension totale qu'on puisse, y compris les classes moyennes, faire la queue pour se nourrir.
C'est la malédiction de l'or noir.
Alors c'est effectivement la malédiction de l'or noir que l'on trouve en partie aussi au Proche-Orient.
Yann Le Gléau ?
Tout à fait, c'est ce qu'on appelait aussi le syndrome hollandais. Dès qu'on se base sur une culture, une monoculture en plus de rente, comme le pétrole, tout l'aspect productif du système économique s'effondre.
Alain Diekhoff, réaction ?
Il y a une grande différence quand même entre les deux situations, c'est que dans le cas de Gaza, on est dans une confrontation entre Israël et les Palestiniens.
Bien sûr, là,
on est dans un cas de figure où c'est l'État qui finalement est contre une partie de son propre peuple, parce que disons les choses, c'est un régime populiste de gauche qui évidemment
qui affame son peuple,
qui a changé les règles du jeu, parce que les élections, disons les choses sérieusement, c'est des élections complètement bidons, parce qu'évidemment les règles sont la constitutionnalité même du processus et n'est pas là. Je dirais tout a été fait pour finalement arriver au résultat que Maduro veut, c'est-à-dire la perpétuation du pouvoir.
Merci beaucoup Yann Le Gléau d'avoir été avec nous, d'être passé dans nos studios ce matin. Je rappellerai donc votre documentaire Venezuela, l'instinct de survie, ça sera demain sur Arte, dans Arte Reportage, ça sera 18h35. Merci infiniment.
Merci.
Allez, on quitte le Venezuela. Après le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et les violences à Gaza, comment la cause palestinienne est-elle sortie des agendas diplomatiques?
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Le début de la semaine a été marqué par des violences dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a fait au moins 60 morts dans les rangs des Palestiniens venus protester contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, un transfert dont la date n'a pas été choisie tout à fait par hasard, le 14 mai, 70 ans après la création de l'État d'Israël.
On behalf of the 45th president,
au nom du 45e président des États-Unis, nous vous accueillons officiellement et pour la première fois à l'ambassade des États-Unis, ici à Jérusalem, la capitale d'Israël. Merci.
Thank you.
Voilà, d'un côté Ivanka Trump, la fille du président, inaugurant l'ambassade américaine à Jérusalem, et de l'autre, les violences dans la bande de Gaza, des violences qu'on produit bien sûr des réactions dans les chancelleries, mais des réactions relativement retenues, y compris chez les pays arabes, qui certes ont dénoncé la violence des forces d'occupation israéliennes et rappelé le droit du peuple palestinien, mais semblent beaucoup moins enclins à s'impliquer activement dans cette cause. Alors comment comprendre ce recul de la question palestinienne dans les priorités du monde arabe? Voilà la question qu'on va poser ce matin avec Yves Aubin de la Messuzière, avec Alain Diekhoff. Je vous ai pas présenté, je rappelle pour les auditeurs que vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur du CERI Sciences Po. Notre partenaire du Monde, Marc Semo, est avec nous. On commence avec vous comme chaque semaine. Ça faisait plusieurs années, évidemment, que le conflit israélo-palestinien n'avait pas produit autant de morts depuis le conflit de 2014. Depuis le début en mars dernier de la grande marche du retour contre le blocus de Gaza, on a plus d'une centaine de Palestiniens qui ont été tués. 3000 personnes blessées par balles, et on a le sentiment, c'est vrai, que les chancelleries réagissent de manière relativement retenue, y compris chez les pays arabes, des pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, c'est vrai, on diffusait bien sûr des communiqués, mais dont la sémantique se rapproche furieusement de ce qu'on trouve du côté des pays occidentaux. Je mets évidemment les États-Unis de côté. Mais on dénonce les violences, on rappelle le droit des peuples palestiniens, mais ça ne déclenche pas beaucoup plus. C'est quelque chose, Marc, qui montre parfaitement ce recul de la cause palestinienne dans la hiérarchie des priorités diplomatiques.
Oui, absolument. On est dans la frilosité, voire le service minimum. Il y a eu quelques réactions, il y a eu au Conseil de sécurité, il y a eu un peu quelques discours, il y a eu une convocation du Conseil des droits de l'homme à Genève, mais finalement, si la question palestinienne s'est retrouvée mise à la une par ces marches pour le retour et cette centaine de morts, le conflit israélo-palestinien, il est évident qu'il n'est plus central aujourd'hui au Moyen-Orient. Et ça s'explique assez facilement, la coagulation de toutes les crises dans la région, où la guerre en Syrie, l'affrontement Israël-Iran qui déjà se passe sur le sol syrien, la question du nucléaire iranien après le retrait américain, toutes ces crises se coagulent et de fait marginalisent de plus en plus le problème palestinien. Aujourd'hui, pour les capitales sunnites, à commencer par Riyad, la principale menace, c'est l'Iran. Pour Israël, c'est aussi la principale menace, d'où cette convergence évidente entre le camp sunnite et Israël. Et on est dans cette situation où les uns comme les autres se félicitent du soutien américain. Ils ne savent pas ce qu'il va y avoir après l'administration Trump. Donc on est parti même vers une espèce d'alliance stratégique. Et là-dedans, bon, les Palestiniens sont un peu dégénères. Alors on est dans cette idée d'un espèce d'accord à minima qui pourrait être donné aux Palestiniens, histoire de permettre cette alliance.
On va revenir évidemment sur cet accord. Que vous inspire d'abord, Alain Dikov, peut-être ces réactions des chancelleries, et je parle en particulier des pays arabes?
Disons, c'est le service minimum diplomatique. Elles sont évidemment obligées de réagir de cette façon, histoire simplement d'être de marquer un petit peu certains principes. Mais je dirais tout ça est assez largement rhétorique. Le fond de la question, c'est que indéniablement, en termes purement politiques et diplomatiques, la question palestinienne a été marginalisé au cours des 15 dernières années. Les États de la région ont été de plus en plus, je dirais, obsédés par la question iranienne. C'est ça qui finalement mobilise les dirigeants. Du côté israélien, ça n'est pas nouveau, mais du côté des grands États du Golfe en particulier, bien sûr au premier chef l'Arabie Saoudite, c'est ça leur préoccupation essentielle. Et c'est ce qui explique aussi certaines convergences tactiques, voire même des discours comme celle du prince héritier Salman qui sont finalement assez positifs vis-à-vis d'Israël, qui était paru dans The Atlantic
au mois d'avril. On va y revenir.
Donc je dirais sans dit long, la réalité c'est ça. Structurellement, il y a des modifications géopolitiques qui sont à mon avis durables.
Yves Aubin de la Messuzière, réaction aussi sur les réactions donc de la chancellerie, ce grand chambardement, j'utilise cette expression parce que c'était l'un des titres de votre ouvrage en 2016, Monde arabe, le grand chambardement. On le voit notamment avec cette question palestinienne.
Justement, puisque vous citez mon livre, Le grand chambardement, le monde arabe, le grand chambardement, je réaffirme dans un chapitre la centralité de la question israélo-palestinienne. Parce que, donc, effectivement, on avait pensé au moment de l'émergence des révolutions dans le monde arabe que, et de facto, effectivement, la question palestinienne était sortie des agendas diplomatiques. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va disparaître durablement. Alors, c'est en fonction, effectivement, parce qu'il y a d'autres priorités. Et on voit bien le monde, la communauté internationale, c'est l'Europe et même la France. On a du mal à gérer plusieurs conflits à la fois. Donc, effectivement, le conflit syrien apparaissait, effectivement, prioritaire, et puis il y a la question iranienne, la question nucléaire, effectivement. Mais c'est la situation sur le terrain qui rappelle cette centralité. Et quand on voit, parce que, effectivement, vous parliez des chancelleries, effectivement, qui ont été, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait tout à l'heure Marc Sémot et vous-même, c'est donc le ces réactions, disons, à minima, des chancelleries diplomatiques, mais c'est probablement pas le cas des opinions, parce qu'il y a la force des images. Et cette juxtaposition des images au moment de l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et ces violences qu'on a vues dans tous les médias, parce que j'ai circulé dans tous les réseaux d'information, télévisés en particulier, et tout était bloqué sur les images de ce qui se passait sur le territoire de Gaza.
Avec et donc ça compte encore pour les opinions.
Et ça compte pour les opinions, et il faudra voir, même si elles n'apparaissent pas autant mobilisées parce qu'elles ne sont pas dans les foras, elles ne se déplacent pas en foule, ce qu'on appelle faussement la rue arabe. Elle ne sait pas, mais elle peut se réveiller autrement. Il faut regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux en particulier, et il peut y avoir aussi un retour, on pourrait en parler, aussi d'une autre violence radicale, et bien au-delà du Hamas d'ailleurs,
le
mouvement djihadiste, Al-Qaïda, l'État islamique.
On en parlera. Marc Sémot.
Mais alors, c'est vrai que la question palestinienne, on en parlait, est sortie de l'agenda diplomatique, mais elle est apparemment aussi sortie, d'une certaine façon, même de la rue palestinienne, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé à Gaza, cette tragédie à Gaza, mais la Cisjordanie, ce même jour, les manifestations sont restées quasiment insignifiantes, les manifestations des Palestiniens au Liban, pour la commémoration de la Narba, de la catastrophe, ont été marginales. Donc on a l'impression que, indépendamment même de la rue arabe, la rue palestinienne elle-même semble dans une espèce de logique de résignation. C'est-à-dire que la nouvelle donne au Moyen-Orient, les nouveaux rapports de force, alors le Hamas maintenant est de plus en plus soutenu par l'Iran, donc il est dans le camp, entre guillemets, des méchants, des ennemis, on a l'impression que dans tout ça, finalement, la rue palestinienne elle-même se résigne à cette nouvelle donne.
Alain Dikoff, est-ce que la rue palestinienne est résignée?
Alors, avant de répondre à cette question, juste un point sur la question de la centralité. Tout dépend ce qu'on met derrière le terme. Si on veut dire par là que la question palestinienne demeure importante, la réponse est oui. Si, en revanche, on veut dire est-ce qu'elle continue à jouer un rôle structurant dans la région, la réponse est non. Parce que c'est vrai que la question palestinienne a été structurante dans le jeu régional dans les années 60-70, tout s'organisait autour du conflit israélo-arabe. Ça n'est plus vrai. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu un déplacement vers le Golfe, déjà avec la guerre Iran-Irak, ensuite avec les différentes guerres contre l'Irak de Saddam, qui avait déjà beaucoup cristallisé les choses autour du Golfe. Et évidemment, la question iranienne l'a encore davantage centralisée autour de ça. Donc c'est ça qui a changé fondamentalement.
C'est important parce que ça veut dire que ce que vous dites, vous, c'est que c'est le contexte régional qui a changé et c'est moins peut-être une forme de lassitude, c'est-à-dire on n'arrive pas à régler ce problème, donc on abandonne d'une certaine manière.
Je pense qu'il y a les deux. Il y a cette dimension structurante, mais il y a aussi, en effet, une sorte de lassitude et de désespérance aussi. Hein, d'ailleurs, je dirais dans le comportement même des manifestants qui vont finalement savent qu'ils vont finalement affronter la mort. Je dirais quand ils essayent de franchir la barrière avec Israël, ils savent très bien ce qui les attend. Ça, c'est pas le signe d'un espoir. C'est le signe, à l'inverse, évidemment, de désespoir, de l'absence de solution. Donc ça, c'est vrai que du côté palestinien, ce qui est frappant, évidemment, c'est d'une part la division. On y reviendra certainement parce que le fait qu'il y ait pas de manifestation en Cisjordanie, c'est aussi lié au fait que la Cisjordanie est contrôlée par Mahmoud Abbas et le Fatah. Donc ça pèse évidemment. Volonté de mobilisation des personnes, ça paraît assez évident. Mais c'est surtout l'absence de perspective politique qui explique aussi ça. C'est-à-dire, ils disent, à quoi bon? Parce qu'on ne voit rien, on ne voit rien venir. Et ça fait un moment qu'on ne voit rien venir.
On va y revenir sur ces divisions, mais essayons d'avancer un tout petit peu, parce qu'il y en a un qui a un plan, c'est Donald Trump. Il a dans sa besace le deal du siècle concocté, notamment par son gendre Jared Kushner, mais aussi son ancien conseiller Jason Greenblatt, mais aussi David Friedman, l'ambassadeur américain en Israël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, Yves Aubin de la Messuzière, parce que c'est important, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan? Quel est le projet de Donald Trump? Et est-ce qu'il y a une quelconque chance qu'il soit adopté?
Bien, absolument pas. D'ailleurs,
qu'est-ce qu'il y a dedans?
Il devait présenter
ce
plan il y a quelques mois. Donc, il y a eu... Alors, on n'en connaît pas, on en connaît quelques éléments. Mais l'élément principal... Et c'est là où ils s'étaient entendus aussi les Américains, avec l'Arabie Saoudite, qui pense, comme on le pensait dans les années 50, qu'on peut régler la question palestinienne par l'économie. C'était ça le fondement de son plan, c'est-à-dire, et en particulier pour Gaza, avec l'appui des Émirats Arabes Unis et avec le retour de Mohamed Dahlan, qui était le chef de la sécurité de la palestinienne, dont on a beaucoup parlé là récemment, qu'on peut régler par l'économie, par, disons, l'injection de milliards de dollars. Mais le problème...
Attendez, c'est pas un plan de financement propose alors, Donald Trump.
Et puis il y avait quelques éléments là, effectivement. Ben c'est qui fait que on se rapproche du point de vue, disons israélien, même si on affirme probablement dans ce plan dont on ne connaît pas les éléments, sauf si peut-être vous en avez d'autres qui sortent de temps en temps dans la presse.
Bah, on nous parle d'un État doté d'une souveraineté limitée, sans continuité territoriale, sans droit au retour des réfugiés, avec une capitale dans un faubourg de Jérusalem et pas du tout à Jérusalem-Est. Voilà. Oui. Si, on a quand même quelques éléments.
On a quelques éléments. Mais il faut voir la doctrine de Trump. C'est le principe de réalité. C'est quand il a installé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Il dit la réalité, c'est que ben, Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. C'est là où se trouve le gouvernement. Eh bien, il dira la même chose le moment venu concernant la Cisjordanie. Le principe de réalité, c'est le développement de la colonisation. Et c'est pour ça que on peut plus parler de processus de paix depuis des années. Je suis latiniste, plutôt de récessus. On est plutôt dans la régression au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça que je pense que, au total, sans parler véritablement de centralité actuellement, on y reviendra. On peut régler l'affaire, la question irakienne. On peut dire que là, il y a une forme de normalisation, probablement aussi en Syrie. Tandis que là, on ne voit aucune perspective concernant le règlement de la question palestinienne.
Alain Dikoff, et puis ensuite Marc Semo. Alain Dikoff, ce plan de Donald Trump, c'est un plan de reddition ?
Bah, moi, j'attends déjà de voir, en effet, les contenus précis. Mais disons que si ce qu'il y a dans le plan s'avère vrai et que c'est ce qui sera présenté, ça me paraît assez sûr que ça ne pourra pas régler sur le fond l'entièreté du dossier palestinien. Mais je n'exclurai pas que ce plan puisse être au moins partiellement mis en œuvre. Parce que il faut bien dire que l'autorité palestinienne est à la recherche quand même d'un second souffle. Et quelque part, même si c'est pas évidemment un plan qui réglerait tout, ça pourrait quand même être quelque chose qui lui donnerait un peu plus que ce qu'elle a aujourd'hui. Et on peut pas, à mon avis, complètement écarter d'un revers de main le fait qu'elle puisse l'accepter comme quelque chose de provisoire.
Mahmoud Abbas pourrait l'accepter.
Il a déjà la légitimité pour
signer un accord.
Il a déjà avalé beaucoup de couleuvres. Et moi, je pense qu'on peut absolument pas l'exclure. Mmh. Et si on voit tout ce qu'il fait depuis à peu près un an et demi, on voit une chose, à la fois au sein du Fatah et tout récemment au sein de l'OLP, il cherche à consolider son pouvoir et celui de ses affidés. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont à la tête de l'autorité palestinienne depuis plus de 20 ans ont des intérêts à défendre. Ils ont quand même construit quelque chose. Vous allez à Ramallah, il y a quand même une vie économique, il y a un boom économique, il y a des classes moyennes, ça existe. Ces gens-là, ils veulent défendre ça. Ils n'ont pas envie de faire la révolution. Donc, il ne faut pas négliger ça. On a trop tendance à l'extérieur de pas prendre en compte cette réalité-là. Elle compte aussi. Il y a les réfugiés, bien sûr, qui eux n'ont rien à perdre. Il y a des gens qui ont quelque chose à perdre dans cette affaire. Et donc, moi, je serais assez prudent pour dire, pour écarter d'un revers de main totalement ce plan à venir comme quelque chose qui sera totalement rejeté. C'est peut-être pas si évident que ça.
Marc Semo.
Justement, on est toujours plus là dans cette espèce de séparation de fait.
Absolument.
Entre la Cisjordanie d'un côté et Gaza de l'autre, parce qu'il y a cette réalité de classe moyenne, d'une autorité palestinienne qui n'a plus vraiment une légitimité politique, mais finalement, les gens là-bas voient qu'ils vivent plutôt mieux que dans l'écrasante majorité des pays de la région, et que donc, il y a cette espèce de résignation.
Et mieux que ceux de Gaza.
Cette espèce de résignation sur lequel Paris et les Américains et les Israéliens. Donc, à terme, on aura deux États palestiniens. Tout ce temps palestinien.
De facto, on a une division. Elle est politique, elle est géographique. Ça c'est vrai depuis maintenant 2007. Et j'avais eu l'occasion d'ailleurs il y a quelques mois à ce même micro, quand on avait fait une émission autour de la question de la réconciliation, à être très très prudent sur l'accord. Et j'ai finalement eu raison d'être prudent parce que cet accord n'a rien donné pour le moment.
On va y revenir. Yves Aubin de Messuzière.
Non. Alors ce qu'on peut dire, s'agissant de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas, il est complètement déconsidéré au sein de l'opinion. Il y a des sondages et des sondages comptent. 70% rejettent Mahmoud Abbas. Mais par contre, au Conseil national palestinien, quand il y a eu le comité exécutif, il a eu une large majorité. Parce que le Fatah, qui est majoritaire, c'est un parti de gouvernement qui ressemble au parti de gouvernement dans les régimes autocrates du monde arabe. C'est ça la réalité. Alors, je pense qu'il y a un plan aussi qui, parfois, la presse israélienne en a parlé il y a quelque temps, qui ne semble pas apparemment dans l'actualité immédiate, c'est de dire qu'après tout, l'État palestinien, capitale Gaza. Beaucoup y pensent. Et il faut voir avec, donc là, il y a une autorité qui est une véritable, je trouve, autorité, quoi qu'on pense du Hamas, qu'on le qualifie ou non de terroriste ou de résistant. Et on a vu d'ailleurs que dans les manifestations, ouais, parce qu'il n'y a pas eu un seul tir de roquette, c'est-à-dire il a une capacité de contrôle de l'ensemble du territoire sur le djihad islamique. Et ça, je pense qu'il n'est pas aidé par l'Iran. L'Iran aide plutôt le djihad islamique. L'Iran n'est pas très présent, disons, dans idéologiquement. Mais par contre, revenons au fait qu'il y a un autre acteur qui peut revenir. Regardons ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ça apparaît de plus en plus. Et Al-Qaïda, notamment, qui n'est pas complètement morte. Il y a aussi l'État islamique, ou ce qu'il en reste. Maintenant, demain, c'est Jérusalem. Et ça, c'est donc ce sera la cause de nouvelles violences.
Il y a deux semaines, on s'est lancé dans une nouvelle aventure, figurez-vous, avec ce partenariat avec Cartooning for Peace. Vous connaissez bien sûr cette association fondée à l'initiative de Plantu et de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Et désormais, chaque vendredi, on sélectionne un caricaturiste et un dessin en fonction de notre sujet du jour. On diffuse tout ça sur les réseaux sociaux et sur le site de France Culture. C'est notre bulle Cartooning for Peace.
Il fait le clown !
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon
vieux ! Assis !
Voilà, quand le dessin de presse éclaire l'actualité. Alors aujourd'hui, deux dessins, deux caricaturistes, l'un palestinien et l'autre israélien. On voulait essayer de tenir un équilibre. Premier dessin côté palestinien. L'image est saisissante, c'est celle de droite. Elle est très sombre, bordée de noir, avec des personnes qui apparaissent dans la lunette de tir d'un sniper israélien. Dans son champ de tir, un homme en fauteuil roulant, une jeune infirmière, un enfant, un journaliste, tous désarmés. C'est un dessin qui est signé Sabaneh, qui est un jeune dessinateur palestinien indépendant. Réputé pour ses dessins très engagés. En 2013, il avait d'ailleurs été arrêté par les autorités israéliennes à la frontière jordanienne, maintenu en prison pendant plusieurs semaines. Côté israélien, donc, dessin de gauche pour vous. Hein, je vous en ai chacun donné une reproduction. On est côté israélien maintenant. La métaphore n'est pas tout à fait la même, mais tout aussi saisissante. On y voit un homme âgé, le sourire carnassier, disons-le, un bandeau vert caractéristique justement des militants du Hamas autour du crâne, confortablement assis dans un fauteuil, à l'abri, on pourrait dire. Il tient un cerf-volant aux couleurs de la Palestine, auquel est accroché un enfant tenant dans ses mains un lance-pierre, accroché à sa cheville un cocktail Molotov. Et cette fois, c'est le t-shirt de l'enfant qui est floqué d'une cible. Un dessin signé chez Sharka, dessinateur et caricaturiste israélien qui publie chaque semaine dans le journal Makor Rishon. La guerre aveugle donc d'un côté, la manipulation du Hamas de l'autre. Alors je voudrais vous faire réagir peut-être Yves Aubin de la Messusière et Alain Dikoff sur ces deux dessins, parce que la question de la responsabilité du Hamas, elle a été centrale. Hein, on l'a entendu dans cette semaine. D'abord, avec cette idée avancée par les Israéliens que le mouvement islamiste aurait été derrière l'organisation de ces manifestations, ce qu'a rejeté le camp palestinien. Et puis ensuite, en milieu de semaine, on a eu ce responsable du Hamas qui a dit qu'effectivement, parmi les tués, il y avait au moins une soixantaine de personnes qui étaient directement liées au Hamas, une information qui a été immédiatement reprise côté israélien pour dire, bah, vous voyez, on avait raison, c'est bien le Hamas qui était derrière tout ça. Alors, comment comprendre l'implication, Yves Aubin de la Messusière, du Hamas dans ces manifestations qui ont été organisées?
Et je crois que l'examen des faits, l'analyse, et y compris, on le trouve aussi dans différentes déclarations d'Israël, dans la presse, et de la part d'ailleurs de hauts responsables militaires israéliens, surtout parmi les anciens, il s'agit à l'origine d'un mouvement, disons, société civile. Et il faut le voir aussi, c'était, la nouvelle stratégie de l'autorité palestinienne. Donc l'affrontement armé ne donne aucun résultat. Donc la population civile, alors qui peut être manipulée politiquement, ça, il n'y a pas de doute, eh bien, puisse manifester pour que permettre aux Palestiniens de recouvrer leurs droits. Alors ce qui s'est passé, compte tenu de ce que représente Gaza, cette prison à ciel ouvert, cette situation humanitaire catastrophique, ce chômage des jeunes, je crois que ça a été ce mouvement qui, par la suite, évidemment, a été accompagné. C'est comme les intifadas. à l'époque avec l'autorité, qui accompagne donc ce mouvement-là, et qui a, là on peut le dire, une responsabilité, mais qui n'a certainement pas la responsabilité première. D'abord, il y a une chose qui compte, hein. Il n'y a pas une seule roquette qui prouve le contrôle du Hamas, ce dont se félicite Israël, parce qu'ils sont indirectement en contact. Et il n'y a pas eu un seul drapeau aussi du Hamas. Et alors c'est la justification a posteriori qui vient des Israéliens, puisque les noms de ce qu'on appelle les martyrs sont publiés et sont connus dans les territoires palestiniens, et après ils repèrent qu'un tel et un tel et des militants du Hamas, qui est le parti majoritaire, c'est des dizaines de milliers, ça n'en fait pas pour autant des terroristes. Il y en avait certainement. Alors quand je vois, puisque vous me demandez de commenter l'image,
je vous en prie,
des snipers, alors c'est un nouveau mode opératoire. Ça, c'est effrayant, hein, de la part des Israéliens, une centaine de snipers. Et alors, avec un choix qui est fait, ce que l'on tue et ce que l'on blesse. Donc c'est à peu près, je crois, 120 qui ont été tués. Des milliers qui ont été gravement blessés parce qu'on leur tire dans les pieds. Ça veut dire quoi? C'est parce que peut-être les Israéliens pensent, plus on en blesse, ce sont des gens qui deviennent handicapés, qui ne sont plus dans la possibilité de manifester. Et ce mode opératoire, et d'ailleurs, il faut lui dire, condamné, même d'ailleurs la Breaking Silence, vous savez, cette organisation avec des anciens militaires israéliens, c'est Betselem, que je connais bien, hein, qui aussi, on dit, il s'agit maintenant, et c'est en Israël, où on utilise de plus en plus le concept de crime de guerre. Et là, ce mode opératoire est tout à fait effrayant, et c'est ce qui a créé l'émotion, et aussi, je rappelle, je ne représente pas le ministère des Affaires étrangères et l'État français ici, la déclaration du président de la République qui a parlé d'actes odieux et de violence. Et la responsabilité là. Et puis, il faut rappeler le droit qu'ont les Palestiniens de manifester. C'est ce qui est contesté par les Israéliens.
Alain Dikoff, peut-être réaction sur les dessins qu'on va évidemment tout de suite diffuser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur le compte Twitter de Culture Monde pour les voir, ces dessins. Et puis plus généralement sur la responsabilité du Hamas. Il faut essayer de comprendre aussi le jeu que le Hamas pourrait jouer à l'avenir dans, même si tout à l'heure vous refusiez, réfutiez cette idée d'avancer dans le processus de paix, quel jeu il va jouer maintenant? Que cherche à faire le Hamas finalement?
Évidemment, je pense que c'est assez difficile de dire exactement quel rôle il a pu jouer dans cette mobilisation. Je pense que ce qu'on peut certainement dire, c'est que il y a un grand changement par rapport à ce qui s'était passé au cours des confrontations antérieures avec Israël. C'est que là, en effet, il y a une dimension de mobilisation populaire qui paraît indéniable. Alors ensuite, le rôle précis que le Hamas a pu jouer, soit pour l'initier en partie, soit pour l'accompagner, soit pour le récupérer. Il y a certainement un peu de tout ça dans la réalité de cette mobilisation qui avait été quand même pensée stratégiquement, je veux dire, parce que la mobilisation, c'est vrai qu'elle a trouvé son point d'orgue le 14 mai, d'ailleurs indépendamment de la question du transfert de l'ambassade, tout à fait symbolique pour le moment d'ailleurs, de Tel Aviv à Jérusalem. C'était l'aboutissement du processus de mobilisation qui avait commencé fin mars. Tous les vendredis, depuis fin mars, les Palestiniens se rendaient vers la ligne de séparation entre
que va faire le Hamas maintenant? Durcir la confrontation avec Israël, essayer peut-être de jouer justement l'apaisement pour peut-être jouer la carte de la levée, en tout cas de l'assouplissement du blocus. C'est quoi la stratégie maintenant, la tactique?
Moi, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire eux particulièrement sur le coup. Ce que je peux constater, c'est en effet qu'il y a eu un changement de stratégie. Ça paraît assez clair. Mais au-delà de ça,
qu'est-ce qu'il illustre?
Je pense que c'est aussi la reconnaissance finalement du fait que la stratégie plus militarisée qu'ils avaient adoptée, qui avait conduit quand même à trois guerres avec Israël, finalement a conduit à une impasse. C'est-à-dire ça n'a pas permis de sortir du tout. Alors peut-être qu'en effet, avec une mobilisation plus populaire, qui est aussi évidemment mieux perçue à l'extérieur, ça pourrait être éventuellement quelque chose qui pourrait faire bouger un tout petit peu les lignes. Voilà. C'est ça qu'on peut dire. Est-ce qu'ils vont persister dans cette vision? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'il faut aussi simplement voir cette mobilisation non pas seulement dans la confrontation avec Israël, mais aussi quelque part comme un message à l'autorité palestinienne elle-même, parce que c'est il y a un double c'est un billard là pour le coup à deux bandes. Il y a aussi finalement la volonté quelque part du Hamas qui contrôle in fine en tous les cas le territoire à Gaza de montrer que eux ils continuent à mobiliser la population, ce que l'autorité palestinienne ne peut plus faire en Cisjordanie.
Yoman Lamessusière et Marc Semo qui voulaient réagir aussi.
Oui, alors pour compléter ce que dit Alain Dikoff, donc j'adhère totalement effectivement à ce qui vient d'être dit, mais on peut rajouter que le Hamas a évolué, parce qu'il se trouve que j'étais le premier diplomate en contact
avec en 2008, il y a quelques années,
vous en faire et parler. Avec d'autres partenaires américains, britanniques et autres, c'est pour les amener justement à évoluer et à modifier leur charte. Laquelle charte? Elle a été interprétée, mais pas modifiée, contrairement à ce qu'on a pu dire. Elle est là, parce que c'est extrêmement difficile. Ils n'ont pas pu faire comme l'a fait Yasser Arafat lorsqu'il a déclaré la charte de l'OLP comme étant caduque.
À l'époque, oui. Vous aviez dit qu'il fallait absolument discuter avec le Hamas. Vous aviez dit les Européens, les Américains absolument. Doivent discuter avec le Hamas. Oui, le Hamas est incontournable. Il l'est toujours autant aujourd'hui?
Eh ben, il est autant. Et alors, il a beaucoup évolué dans la mesure maintenant. Ils disent très très clairement que quand ils parlent d'État palestinien, ils parlent d'un État palestinien dans les frontières de 1967. Ouais. Donc c'est une reconnaissance indirecte de l'État d'Israël. Mmh. Voilà. Donc il y a cette évolution qui est fondamentale et aussi le fait, et je sais qu'Israël s'en est aussi félicité, pendant, je crois, depuis 2014, il n'y a pratiquement pas eu de tir de roquette.
Marc Semo.
Est-ce que justement cette nouvelle tactique du Hamas, qui est celle des manifestations pacifiques, plus ou moins, qui vont vers la frontière, ne mettent pas complètement Israël dans un piège? Parce que là, il ne s'agit pas de réprimer des manifestations. Il s'agit, au-delà de ça, si ces manifestants pacifiques franchissent la ligne, franchissent les barbelés, la situation est totalement ingérable pour Israël. Donc ils se retrouvent pris dans une situation où, effectivement, ils utilisent des balles contre des manifestants pacifiques, mais sur quelque chose qui est, pour eux, quand même un défi fondamental. Ils sont complètement coincés.
Bah, ils sont coincés, mais il faut voir la réalité. C'est parce que, à la fois dans les différents discours américains, israéliens, palestiniens et aussi du Hamas, qui ne s'appuient pas sur cette réalité, il est bien évident qu'il n'y avait aucune capacité de ces manifestants de déborder la ligne de démarcation. Parce qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs lignes. Ils ont atteint les barbelés qu'ils ont essayé de tirer. C'est ça qui est, qui montre. Alors, je crois que dans cette affaire-là, compte tenu, disons, de la retenue du Hamas, qui aurait pu effectivement actionner directement lui-même ou à travers peut-être d'autres organisations, donc des tirs sur Israël, ce qui n'a pas été fait. Et ce qu'on le sait actuellement, et probablement c'est là où il y aura non pas une relance du processus de paix, il ne faut pas l'imaginer avant longtemps, mais par contre des contacts indirects entre Israël et le Hamas, notamment à travers le rôle que reprendrait l'Égypte.
Alain Dikoff, pour reprendre ce que disait Marc Semo, est-ce que les Israéliens sont coincés par cette nouvelle approche des Palestiniens avec ces opérations de tentatives de franchissement de la frontière
pacifique?
Oui, mais je pense que là, c'est vrai que c'est pour l'image d'Israël, c'est clair que c'est un piège, parce que une armée face à une population civile et en effet désarmée, elle est toujours perdante. Et donc évidemment le pays de cette armée est nécessairement mal perçu. Je pense que là où on pourrait s'interroger, mais je suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, mais ce serait de savoir si il y aurait pas eu d'autres moyens moins létaux pour endiguer cette foule. Bon, ben là j'ai pas de réponse, mais c'est évidemment une question qu'on peut poser.
Peut-être une toute dernière question, il nous reste 2-3 minutes. Vous soulignez tout à l'heure, Alain Dikoff, combien le contexte, les jeux d'alliance avaient changé. Il y a un acteur qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question de la Russie. On sait combien, évidemment, elle cherche à peser de plus en plus dans son jeu. D'ailleurs, au lendemain de la tuerie de Gaza, elle, en revanche, très claire. Le Kremlin s'est dit très inquiet, estimant que les massacres s'apparentent à des crime de guerre. Donc là, on sent que les positions sont pour le coup extrêmement claires. Alors, comment la Russie, là, pourrait jouer dans ce jeu, dans les perspectives, disons, de règlement de ce conflit israélo-palestinien à l'Indikov? Ça change la donne ou pas tellement?
Non, à mon avis, la Russie, sur ce dossier-là, elle est pas très présente. Hein. Je dirais, Netanyahou a des relations relativement suivies avec Vladimir Poutine. Il était d'ailleurs le 9 mai aux célébrations de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Moscou, mais essentiellement pour parler de la question iranienne, parce que c'est ça qui les soucie, là, c'est le jeu russe en Iran. Sur le dossier israélo-arabe et israélo-palestinien en particulier, je dirais la Russie est assez
ça va pas tellement au-delà des discours. Yves Aubin de Messuzière sur la Russie.
Tout à fait d'accord hein, sur cette analyse, et puis aussi il faut tenir compte qu'un Poutine qui finalement a eu des déclarations assez ambiguës. C'est-à-dire concernant même l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, il s'est dit à un moment dans certaines déclarations que, après tout, il y a aussi une réalité. Hein, ils l'ont, tout en disant que Jérusalem doit être la capitale de deux États.
Ils ont reconnu Jérusalem Ouest comme
capitale. Oui, comme étant Jérusalem Ouest.
Moscou.
Donc il est, oui. Et effectivement, alors ce qui est très important effectivement pour les Russes, c'est la présence de centaines de milliers de Juifs d'origine russe, qui crée un lien particulier donc avec Israël d'aujourd'hui.
من زمان برتوي من هذا الساري بس بالاحلام بشوفها مر الحقيقه ضايق اتشمع علي حتى العربي متامر روحي عكفي فيها ارض بقلبي كنت مهاجر تاريخي مشرد.
Merci beaucoup à tous les trois. Marc Semo, notre partenaire du Monde. Vous ne serez pas là la semaine prochaine, vous serez en Russie. Vous pensez qu'on parlera de la question palestinienne?
Non, on parlera beaucoup d'Iran, Syrie.
Peut-être beaucoup moins de la cause palestinienne. Merci beaucoup en tout cas. Merci également à vous, Yves Aubin de la Messuzière. Je rappelle que vous êtes diplomate, ancien directeur de la section Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai d'Orsay et auteur de Monde arabe, le grand chambardement. C'était aux éditions Plomb. Merci également à vous, Alain Dikoff. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du CERIS Sciences Po et puis auteur, vous, entre autres, hein, du conflit israélo-palestinien. 20 questions pour vous faire une opinion. C'était chez Armand Collin l'année dernière. Merci infiniment à tous les trois.
بعيد عرضي مهما طال الوقت مش حنسى يوم حقي مش هأهدأ لغاية مرضي كلها ترجع كل أهل اللي عايشين برا بالمنفى حياتنا مثل الجمر بالكف لكني بحلم باليوم اللي يرجع فيه كل وطني هضلني واقف علشان مستقبل ابني هضلني واقف علشان وصية سيدي وستي حياة شعب دائم مر.
Voilà, c'est avec ce morceau End to End du groupe Gazaoui Palestinian Unit. On parlait tout à l'heure de la question de la division intra-palestinienne. C'est avec donc ce groupe qu'on se quitte. Vous pourrez retrouver bien sûr les références de ce morceau sur la page de Culture Monde. On mettra tout ça en ligne. 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on a parlé des États-Unis, du Moyen-Orient, mais là vous c'est les États-Unis et plutôt la Chine. Les États-Unis qui ont cru pouvoir influencer la politique chinoise avant Nixon, politique du gros bâton à partir de la visite à Pékin en 1972, politique de la carotte avec dans les deux cas un même résultat, nul.
Eh oui, les États-Unis ont imaginé que l'intensification du commerce de la Chine avec le reste du monde amènerait nécessairement une libéralisation graduelle de l'économie. Les réformes libérales impulsées par Deng Xiaoping ont semblé leur donner raison. Afin de les inciter à aller plus loin, Washington s'est risqué à reconnaître à la Chine le statut de nation la plus favorisée en 1980. En 2000, le Congrès lui octroyait le Permanent Normal Trade Relation. Et l'année suivante, la Chine faisait son entrée à l'OMC sous protection américaine. Entre-temps, les échanges commerciaux entre les deux pays avaient explosé. Rien que dans le domaine des marchandises, on était passé de 8 milliards de dollars actuels à 578 milliards en 2016. Mais contrairement aux espérances occidentales, la libéralisation du pays a marqué le pas. La Chine, sous la direction de Xi Jinping, démontre qu'elle ne renoncera pas de sitôt à son modèle économique, celui d'un capitalisme d'État contrôlé politiquement par un parti qui se réclame du communisme. Celui-ci fonde sa légitimité sur la croissance extraordinaire que connaît le pays depuis 3 décennies. Les Américains ont fait le pari que ce modèle économique était inefficace et insoutenable. Eh bien, jusqu'à présent, ils ont eu tort. La direction communiste ne cache nullement ses intentions. Elle entend promouvoir des champions nationaux dans des domaines stratégiques comme l'aérospatiale, les biomédecines, la robotique. Ailleurs, elle n'autorise les joint ventures qu'au compte-gouttes et sous réserve d'un partage des technologies. Elle n'a pas réellement ouvert son marché intérieur aux firmes étrangères. Bref, elle ne joue pas le jeu de la réciprocité libérale.
Mais la croissance chinoise est également censée déboucher sur une libéralisation politique. Et là aussi, illusion, désillusion.
Eh oui, la puissante classe moyenne qui a émergé en Chine à la faveur de la croissance, elle est, jugeait-on à Washington, exiger des droits. Aucune nation sur Terre n'a trouvé le moyen d'importer des marchandises et des services du monde entier en arrêtant les idées à sa frontière, avait estimé George Bush. Et Bill Clinton de persister dans cette illusion, je cite, « sans une complète liberté de penser, de remettre en question et de créer, la Chine subira un désavantage compétitif face aux sociétés ouvertes dans notre âge de l'information », disait-il. Eh bien, la Chine allait suivre le chemin vers une démocratie authentique, déjà pris par ses voisins sud-coréens et taïwanais. On renouait avec les illusions libérales des années 70, souvenez-vous, de la convergence inexorable des systèmes capitalistes et communistes. C'est dans ce but que les États-Unis ont accueilli des centaines de milliers d'étudiants chinois dans leurs universités. Mais les dirigeants communistes chinois ont vu dans cette ouverture le risque de déstabiliser leur société et puis de perdre leur pouvoir. Ils ont médité les leçons de la chute de l'Union soviétique et ils considèrent le multipartisme comme un danger mortel. Depuis le début de la décennie, le contrôle de l'État sur la société s'est renforcé, le régime est de plus en plus autoritaire. En 2013, un mémo interne au parti, connu sous le titre de « Document numéro 9 », mettait en garde les adhérents du parti contre la démocratie constitutionnelle à l'occidentale et les valeurs universelles, véritable cheval de Troie américain destiné à affaiblir la Chine. La Chine de Xi Jinping ressemble de plus en plus à celle de Mao, de moins en moins à celle de Deng. La répression s'abat sur les journalistes, les universitaires, sur les militants des droits de l'homme ou de l'environnement. La convergence avec nos démocraties libérales n'est pas pour demain. Plus grave, poursuivent Campbell et Ratner dans Foreign Affairs, les nouvelles technologies dans lesquelles les Occidentaux ont voulu voir l'instrument d'une inexorable libéralisation du régime permettent tout au contraire à l'État chinois de resserrer les mailles du filet tendu sur la population tout entière. La surveillance est totale, l'Internet chinois se développe, on le sait, en vase clos, derrière une grande muraille, il est l'objet d'une censure vigilante, un système de reconnaissance faciale est en train de renvoyer la Stasi d'autrefois au rang d'enfant de cœur de l'espionnage permanent d'une population, l'intelligence artificielle permet la mise en place d'un système de crédit social digne du 1984 d'Orwell. Sur le plan diplomatique, les Américains se sont imaginés pouvoir dissuader les Chinois de rivaliser avec eux. Plusieurs administrations ont raisonné sur le précédent de la course aux armements de Reagan dans les années 80. L'URSS s'était écroulée à la fin de la décennie, incapable de suivre au même rythme, mais la Chine n'est pas l'URSS. Durant la période de montée en puissance, les dirigeants chinois avaient assuré que leur pays n'avait aucune ambition hégémonique, mais de plus en plus, à présent, ils font savoir qu'ils ne supportent plus la présence d'alliés de Washington dans ce qu'ils estiment être leur zone d'influence, d'où une alternance de menaces militaires et de diplomatie destinée à enfoncer des coins entre les États-Unis et leurs vieux alliés, notamment taïwanais et coréens. Un troisième porte-avions chinois est déjà en construction. Pékin s'est doté d'une base militaire à Djibouti. Personne ne peut plus douter de la détermination chinoise à faire pièce aux flottes américaines, pour l'instant encore supérieures. Plutôt que de chercher à exercer une influence sur la Chine, les Américains devraient se demander pourquoi ils se sont tant trompés sur ce pays.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve lundi Brice, très bon week-end. Mais pour l'heure, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.